Bonjour. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Melchior, scénariste de bande dessinée. Et pendant une heure, nous allons pouvoir parler de sa carrière, pas que de bande dessinée d'ailleurs, et pas forcément de science-fiction tout le temps non plus. Et nous allons peut-être pouvoir vous montrer des images si ça marche. Voilà. Stéphane, j'aimerais, si c'est possible, qu'on commence par évoquer tes débuts, pas forcément dans le scénario de bande dessinée, mais ton parcours, comment dire, comment tu as eu envie d'écrire, envie d'inventer des mondes ou d'adapter des mondes ou de voilà, quel enfant étais-tu? Non, mais tu vois, tes influences et comment tu en es arrivé là?
Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, c'est toujours un peu délicat de parler de soi, mais bon, c'est l'exercice, alors je vais m'y plier. Quel enfant j'étais? Alors, je pense qu'avant d'écrire, j'avais le goût de la lecture. On ne m'offrait que des livres, ce qui me finissait par me vexer un peu, parce que je voyais mes frangins avoir des cadeaux tout aussi intéressants de leur côté, des Legos, des figurines, etc. Mais moi, j'étais l'enfant qui aime lire, alors on m'offrait des bouquins. Bon, j'aimais ça aussi, alors j'étais pas un enfant malheureux. Mais j'étais toujours plongé dans les récits. J'ai eu la chance de grandir en lisière de forêt aussi. J'étais un enfant assez libre. Je pouvais disparaître des heures entières, m'inventer des mondes, voir les animaux. Voilà, donc une enfance très agréable.
C'était quoi les lectures alors, enfant?
Alors les lectures d'enfant, je m'intéressais beaucoup au monde animal, je m'intéressais beaucoup aux Indiens, je m'intéressais beaucoup à Jules Verne, que j'ai dévoré. Mes parents avaient très beaux, ces belles collections facsimilées du 19e avec tous les tomes de Jules Verne, donc c'était des Jules Verne illustrés. Avec ses très belles couvertures, et ça, c'était ouais. Vraiment un espace de rêve extraordinaire. Et je pense que c'est la première approche que j'ai eue de la science-fiction, c'était ça. Et sinon, bien sûr, les séries télé, l'anime, voilà, à laquelle je suis toujours très attaché. Oui.
Et en BD, il y avait déjà des BD, peut-être même plus tard, hein, même à l'adolescence ou...
Oui, alors... la bande dessinée, en fait, c'est... Comment dire, je lisais pas trop de BD de science-fiction. J'étais très intéressé par le cinéma de science-fiction. Et je me rappelle avoir tombé un jour, avoir acheté un peu par hasard, sans prendre conscience que c'était un collector. C'était toutes les photos du tournage d'Alien. C'était un numéro.
Métal hurlant.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis je l'ai perdu. Et maintenant, je regrette beaucoup.
Maintenant, il vaut cher. Il est dur à trouver.
Voilà. Et bon, on fait des bêtises quand on est jeune, on ne sait pas. Mais voilà, ça, j'étais passionné par ça. Je voyais les dessins de Giger, je voyais tout ça. Et... On dit Giger, Giger, je sais pas. Je me suis inventé des prononciations.
Alors
enfant.
Ça dépend. Celui qui a fait Alien, c'est Giger. Giger, c'est celui qui a fait les westerns.
Alors Giger, Giger. Alors ça trouvait ça incroyable. Cet univers d'ossements très organique, ça, c'était affreusement morbide et ça convenait bien à ma période adolescente. Voilà.
Après, en allant glaner votre bio, j'ai découvert que vous aviez fait des études d'archéologie.
Oui.
Et une thèse sur le dessin mythologique. Alors ça me fascine, j'aimerais bien savoir de quoi il retourne.
En fait, j'étais un enfant très obéissant. Alors, je voulais faire les beaux-arts, et puis c'était le début de la crise et le chômage. Et mes parents ont dit non, surtout pas les beaux-arts. Tu vas faire du droit, ça mène à tout. Et donc, j'ai fait du droit parce que j'étais obéissant. Je suis bien réussi. Puis ensuite, j'ai fait de la science politique aussi parce que j'étais obéissant et j'ai assez bien réussi. Et puis, je me suis retrouvé avec cette maîtrise. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, quoi. Et j'en savais rien. Et en fait, je commençais à m'écouter un peu et je suis allé vers l'histoire de l'art. Et j'ai fait l'école du Louvre, qui est une excellente école. C'était passionnant. Et j'ai fait l'UFR d'art et à l'archéologie Michelet Paris 1. Et ça aussi, c'était passionnant. Deux approches très, très différentes de l'enseignement des arts. Et c'est là aussi où j'ai quitté un peu la littérature de science-fiction parce que ce sont des études très exigeantes. Et je me suis complètement plongé dans les lectures utiles. Alors, j'ai passé des moments merveilleux en compagnie des grands peintres, sculpteurs et architectes du patrimoine mondial. J'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis passionné aussi beaucoup pour le Japon, ce qui aura une influence pour moi importante dans la bande dessinée. Mais voilà, donc je suis allé assez loin, je me suis passionné, je m'imaginais que je pourrais devenir conservateur de musée. J'ai passé plusieurs fois le concours, j'avais de très bonnes notes, mais dans le demi-point qui me séparait de l'excellence, il y avait 40, 50, 70 personnes. C'était 800 candidats pour 5 postes par an. Donc, bon, j'ai compris que ça ne serait pas pour moi. Et donc, je me suis dit que je pourrais peut-être devenir professeur. Et donc, j'ai entamé une thèse sur le dessin mythologique du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le XVIIIe siècle, en France en tout cas, c'est pas la seule époque où on redécouvre les grands classiques, mais c'est le début de ce grand voyage à Rome. Il y a beaucoup d'artistes qui se forment à Rome, au contact de l'antique. Et donc, on réexplore la mythologie sous l'angle néoclassique, etc. Mais aussi baroque, encore que le baroque, ça remonte plutôt au XVIIe. Vous voyez, il ne faut pas trop me lancer sur l'histoire de l'art, parce que alors, ça redevient un plaisir. Et je pourrais en parler des heures. Mais donc, les dessins mythologiques du XVIIIe siècle, ce n'était pas tous les dessins mythologiques, c'était ceux qui concernaient un grand sculpteur du XVIIIe siècle qui s'appelait Edmé Bouchardon. Alors voilà, encore une fois, on devient vite pointu quand on se penche sur l'histoire de l'art. Mais ce grand sculpteur a beaucoup travaillé au cabinet des médailles à Paris et donc était chargé de faire de splendides réalisations mettant en scène les dieux, les amours des dieux, mais aussi des scènes beaucoup plus pointues comme les fêtes des Lupercales, etc. Enfin, c'était quelqu'un de très érudit. Et il avait une technique à la sanguine absolument magistrale. Et on a dit que c'était le plus grand dessinateur français de son époque à lui. Donc on parle de l'époque de Louis XV et de la Régence. Et donc, j'ai pris un plaisir d'érudition. J'ai eu la chance de visiter le Louvre comme vous aimeriez tous le voir, quand il n'y a personne. J'ai eu la chance de manipuler les originaux au cabinet des dessins. Enfin, voilà, c'était extraordinaire. Et j'étais très, très heureux pendant ces études. Et puis, mon directeur de thèse m'a dit « Il faut maintenant que tu gagnes ta vie. » Et j'avançais en âge. Et il m'a fait un petit mot d'introduction auprès des éditions Flammarion qui le publiaient. Et j'ai démarré comme ça une carrière d'éditeur au département des beaux livres chez Flammarion. Voilà. J'éditais de très beaux livres sur l'art italien. Je m'occupais de l'iconographie. Enfin, j'étais très heureux dans ce domaine de l'érudition. Et j'ai acquis comme ça, un bon niveau de culture générale qui me sert toujours énormément.
C'est sûr que quand on écrit des récits, de connaître un peu la mythologie et ses représentations, ça doit être un réservoir inépuisable et surtout un aide au quotidien.
Oui,
même inconscient.
Absolument, pour l'écriture. Moi, j'ai une nature très, très empathique, très intuitive. Et alors, je passe parfois par une phase d'érudition, mais aussi, quand je travaille, je déploie tout un tas de petits capteurs. Et de posséder un bon niveau de culture et justement à faire des rapprochements, à trouver d'autres sources, à s'appuyer sur des récits anciens ou bien de faire référence à des œuvres d'art qu'on connaît. Dans le domaine de la bande dessinée, j'ai une approche très visuelle, même si je ne suis pas dessinateur, mais je pense avoir une assez bonne compréhension du dessin, une bonne culture du dessin et de la peinture, et ça m'aide beaucoup pour déterminer avec qui j'ai envie de travailler, et puis ensuite pouvoir discuter avec les dessinateurs qui sont des artistes sensibles et généralement assez bien bons connaisseurs des arts aussi. Ça fait partie de leur formation, donc c'est une chance pour communiquer avec eux.
Alors pardon, j'essaye de régler.
Oui. Alors là, il y a un petit retour sans doute pour vous.
On va. Il y a des trucs avant. Hein. C'était
d'accord,
juste pour
très
tester.
Bien.
On va continuer.
Ne brûlons pas les étapes.
Ouais. On est donc dans l'édition et ça a duré combien de temps alors l'édition ?
Ça a duré un peu moins d'une dizaine d'années. Alors, je suis la génération qui affronte plusieurs crises économiques. Donc le monde de l'édition, ça va bien pour moi. Et puis, je suis juste quand même un éditeur freelance, même si je suis directeur de collection aussi pour eux, etc. etc. Et puis, Flammarion est à vendre. Et donc, on taille dans le personnel. Mais comme ils m'aiment bien, ils veulent me garder. Et je passe chez Beaux-Arts Magazine, qui fait partie du même groupe. et vous vous demandez toujours ce que ça peut avoir comme rapport avec la bande dessinée. Eh bien, écoutez, il y en a un et il est assez amusant. C'est que les locaux de Beaux-Arts Magazine sont absolument juste à côté de ceux de Flûte Glaciale. Il y a juste une porte à pousser pour vivre une autre expérience de la bande dessinée. Et aux heures de détente et de pause, alors je vais saluer l'équipe de Fluide et je passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à échanger. Et je découvre des dessinateurs formidables comme évidemment Blutch qui vient juste de démarrer sa carrière. Voilà.
Alors le lien avec Tozoïde et Vulva est...
Oui, c'est drôle.
Et bon. Tout trouvé.
Oui.
Parce que c'est une des premières BD.
Voilà.
Est-ce qu'il y a eu entre-temps une longue carrière dans le dessin animé ?
Alors, en fait, elle succède après, pareil, Beaux-Arts Magazine est à vendre après. Moi, je m'éclate pendant 2 ans chez Beaux-Arts Magazine. Je suis rédacteur en chef de tous les numéros hors série. Je suis les grandes expositions parisiennes. Je discute avec les conservateurs. Je monte des numéros, environ 13-14 ouvrages, des fascicules. Voilà, je suis très heureux. Et puis, boum, Beaux-Arts Magazine est à vendre. Et là, je me trouve sur le marché du travail. Et j'ai la chance d'avoir des connaissances aussi dans le milieu audiovisuel. Et donc, finalement, être directeur de collection ou responsable éditorial, c'est aussi savoir mener une ligne éditoriale en général. Et cet ami qui me fait part de ce recrutement me connaît depuis pratiquement l'enfance, connaît ma passion pour la bande dessinée, les contes, les récits, la mythologie, sait que j'ai le désir d'écrire. On est tous les deux très très fans de cinéma, très très fans de dessins animés, et il me dit bah, vas-y, postule, tu sais, on va bien voir ce qui va se passer. Et donc je postule chez Gaumont Multimédia, et à ma grande surprise et à ma grande joie, c'est moi qui suis choisi. Et j'entame, je dois bien le dire, sur le tas, une carrière dont j'ai une énorme envie, mais dont je ne connais pas exactement toute la technique. Et là encore, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont bienveillants, comme un réalisateur qui s'appelle Xavier Giacometti ou Diego Zamora, et qui m'apprennent le métier sur place. Ils me décrivent toute la chaîne de fabrication du dessin animé, etc. etc. Alors, j'arrive à Tozoïde et Vulva.
Ouais, mais alors, on peut s'arrêter là parce que oui. Ça, c'est hyper intéressant. Ici, aux Utopias, on reçoit des scénaristes de BD, des auteurs, des dessinateurs de BD, des scénaristes de dessins animés, très rarement, voire jamais.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut
parler
un peu du processus et des différences par rapport, par exemple, à la BD ?
Alors, j'ai jamais laissé tomber le dessin animé. Hein. C'est quelque chose qui me passionne encore. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Alors, quand je démarre chez Gaumont, je suis bombardé directeur du développement. C'est-à-dire que je suis chargé de rechercher des nouveaux projets de dessin animé. Et en France, le dessin animé, c'est déjà une belle industrie. Il y a de nombreux talents déjà et des succès aussi. Rappelez-vous... Pardon, j'ai un trou, c'est bête de dire rappelez-vous et de ne pas se souvenir soi-même. Bref, donc il ne faut pas chercher. Et donc, tout ce qu'on me propose quand même est assez formaté. C'est-à-dire, c'est déjà tout prêt pour l'anime, ça ressemble déjà beaucoup à des personnages d'anime. On sent que c'est très professionnel, mais moi, ce dessin animé-là, j'en ai un petit peu marre. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille chercher des dessinateurs avec un trait extrêmement typé pour casser un peu le moule. Et je vais vers deux dessinateurs, et un qui s'appelle Loïc Sécheresse, qui signe les dessins que vous avez sous les yeux, et un autre qui s'appelle Monsieur Z, avec qui je vais créer les Rats pour Gaumont. Voilà. Mais revenons donc à Loïc, puisque Loïc fait des petites animes sous Flash aussi. Il est illustrateur. Il a une très grande envie de bande dessinée. Il y a un lien d'amitié très fort qui s'installe entre nous. On essaie de monter les projets. Mais vous voyez, son trait est très particulier, très jeté. On dirait un peu du Riser. Et donc, il y a des déliés. L'animation, on a besoin vraiment pour le dessin d'avoir des personnages qui sont facilement reproductibles. Et le trait de Loïc se prête mal à ça, même si son univers est très, très, très original, tant du point de vue des personnages, du dessin et du traitement de la couleur. Alors, on fait des tests, mais à l'époque, il n'y a pas de logiciels qui peuvent rendre encore ce côté plein et délié, travail à la plume. Alors il y a des premiers logiciels qui apparaissent qui rendent un effet tremblé, mais c'est assez stroboscopique et ce n'est pas très réussi. Donc malheureusement, on doit abandonner les projets avec Loïc, même si on avait développé déjà un ou deux univers. qui était très très sympa. Il y avait la boîte à loups, c'était une boîte de nuit où se retrouvaient des gros loups pour draguer. C'était le début de tentative de dessin animé un peu adulte. On ne savait pas trop où on allait. Et puis un univers assez social qui s'appelait le Yeti Rabbit de Bonheurville. Et c'était la mise en scène des problèmes sociaux à un moment où les débats sur l'immigration étaient assez virulents. C'est l'époque de Touche pas à mon pote, etc., etc. Voilà. Et donc, on avait envie aussi d'aborder des sujets différents dans l'anime. Mais toutes ces prétentions ont été revues à la baisse. Et finalement, ce qui a marché, c'est le dessin animé classique, très cartoon, et les Rats avec Monsieur Z, qui était un grand bonheur à écrire, à imaginer, et un grand succès à la télévision. Je pense que ça passe encore. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Mais avec Loïc, on n'a pas quitté l'envie de faire de la bande dessinée tous les deux. Et on se dit, tant pis pour le dessin animé, vive la BD. Et on ne connaît personne, on ne sait pas comment se faire éditer. Et donc, on s'amuse. On s'amuse dans le métro. Loïc me présente quelques dessins. Il me dit, voilà, j'ai inventé ces deux personnages, Tozoïde et Vula. Donc, un ovule et un spermatozoïde. Et ils veulent se rencontrer, simplement, c'est compliqué. Et moi, j'adore Woody Allen, j'adore aussi tout ce cinéma-là. Et je projette dans le personnage de Tozoïde un comportement d'hyper frustré, archi-névrosé, complètement empêché dans ses élans sexuels vers les femmes. Et je vois Vula comme une reine à conquérir. Et je m'amuse beaucoup avec ce petit univers. On publie ça sur son blog, mais vraiment pour apprendre à faire de la BD, pour apprendre à traiter la comédie. Bref, pour apprendre un métier auquel on aspirait tous les deux. Et puis ça amuse beaucoup de gens, à tel point que les gens copient les dessins, font des fichiers PDF, ça tourne dans les entreprises, comme ça arrive quelquefois. Et à ma grande surprise, un jour, on me dit « Ouais, j'ai vu un truc super rigolo au boulot aujourd'hui, il faut absolument que je te montre ça. » Et c'était Tozoïde et Vula, il y avait une trentaine de planches. Alors j'étais très heureux de ce retour, inattendu, évidemment. Mais alors on a compris qu'en fait, ça plaisait bien et un éditeur nous a contactés. Et voilà, c'était le premier pas dans l'édition de bande dessinée.
Et c'est un format, le format en strip comme ça, de Gagcourt, c'est un format hyper difficile à maîtriser. C'est pas le plus facile pour commencer.
C'est vrai, mais j'ai toujours abordé les choses avec envie et une certaine forme d'inconscience. C'est-à-dire, si on se pose trop de questions avant de faire les choses, on ne les fait pas. Et donc, il faut faire ça, ce qu'on se sent naturellement capable de faire. Avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, et surtout on riait beaucoup avec Loïc, et c'était ça qui nous motivait. On avait envie d'apprendre. Je ne comprenais pas que c'était difficile. Je voyais qu'il y avait du déchet, c'est-à-dire pour réussir un strip, il fallait en écrire 5. Et on était sans pitié, et on s'est amélioré aussi, on a appris. Et oui, c'est un exercice difficile. Maintenant, je m'en rends compte. Au moment où je le faisais, je m'amusais surtout. Mais c'était déjà un bon exercice rythmique. C'est une obsession pour moi, le rythme dans le récit.
Surtout dans les gags, quoi. Enfin, le rythme.
Oui, mais pas seulement. Alors, le gag, vous avez raison, c'est très très important. La chute. Quand on travaille dans le dessin animé, on travaille sur des formats très courts. Et donc, on est obligé d'avoir un grand sens du rythme. Et puis, ce sont des exercices répétés. Voilà maintenant 15 ans que j'écris beaucoup pour l'anime. Je crois que j'ai dû écrire pratiquement 200 histoires. Donc 200 histoires, il faut mettre son ego de côté parce que c'est un système très industriel, le dessin animé. Et il y a beaucoup de gens à lire votre travail. Et ils sont sans pitié. Les retours sont très durs. Il faut pas. On travaille, c'est de la commande. Hein. On travaille, on est plusieurs à écrire. Notre travail en tant que tel est un travail bien sûr sensible, artistique, de comédie, de drame. Voilà, on y fait un travail d'auteur. Mais très vite, tout ça s'est broyé parce que il y a derrière le filtre du storyboarder, puis celui du réalisateur, il y a les regards des chaînes de télé, il y a le regard du producteur, il y a le regard du directeur d'écriture. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que ce que vous faites est bien ou ce que vous faites est nul. Et des fois, vous êtes convaincu que ce que vous pensez, c'est mieux que ce que qu'on pense votre correcteur, mais vous travaillez pour la commande. Donc, il faut se plier et apprendre ça comme un bon artisan et comprendre la valeur de cet exercice en termes de récit, de maîtrise du récit, de découpage pour l'image et d'exigence rythmique.
Et est-ce que vous avez arrêté le dessin animé en vous lançant dans la BD ou est-ce que vous avez fait les deux en parallèle ?
Alors, j'aimerais arrêter le dessin animé, encore que j'aimerais poursuivre le dessin animé pour faire uniquement des choses que je pourrais créer. C'est pas possible, c'est très difficile de vivre de la bande dessinée. Donc en fait, je finance mon goût pour la bande dessinée avec ma carrière de scénariste de dessin animé. Et j'en suis heureux parce que j'ai, j'ai eu et la chance de pouvoir créer pour le dessin animé, mais aussi d'être sollicité pour le développement, la direction d'écriture ou l'écriture de séries intéressantes. Vous voyez, j'ai 50 ans, mais en ce moment, j'écris sur la 5e saison de Yakari. Et je suis très heureux parce que je renoue avec justement cette enfance dont je vous parlais, à proximité de la forêt, ces journées de liberté. J'ai la chance de recevoir des petits mots charmants de messieurs Derib et Job qui sont pleins de bienveillance et d'attention pour nous, même si ça a été pour eux violent le démarrage de Yakari. Je m'explique, ces deux messieurs talentueux, vénérables, mettent 25 ans à faire 25 albums. On arrive avec un groupe de 5 scénaristes et en l'espace de 8 mois, on tombe plus de 50 histoires. C'est terrible pour eux. Mais alors, après un premier effet de séisme, ils voient qu'on aime leur univers, qu'on en prend soin, qu'on est respectueux et qu'on a beaucoup de bonheur avec eux, qu'on échange. Il suffit de leur demander de nous parler du Carcajou. Ils nous envoient 15 pages de documentation, des références. Et tout ça est écrit à la machine, faxé. C'est trop drôle, c'est comme un saut dans l'espace-temps, c'est vraiment amusant. Génial. Ils sont charmants et j'écris maintenant toujours pour cette série que je dirige même, cette nouvelle saison, et j'en suis très 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 heureux, j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux.
C'est pas la même chose pour Raon par exemple. C'est...
Ah oui, alors Raon, on peut en parler un petit peu si vous voulez, j'ai travaillé sur le développement de Raon et c'était... C'est pas très bien passé.
J'ai un ami qui a repris le scénario de la BD là, et ça s'est très mal passé aussi.
D'accord. C'est compliqué, Raon. C'est un bonheur d'enfance. On parlait des lectures d'enfance. Alors, pif, bien sûr, Raon, génial. Où est-ce qu'on peut, à 10 ans, voir des poitrines de femmes en bande dessinée? Et c'est autorisé. C'est dans Raon. Voilà. Et c'est aussi merveilleux parce que c'est l'aventure. C'est un tout petit peu ridicule parce que c'est Patrick Juvet en slip. Mais c'est super cool et je lui dois beaucoup de bonheur. J'étais pensionnaire au collège pendant longtemps et les Strange, les Raon, c'est ce qui circulait de lit en lit et ça m'a bien soutenu pendant mon enfance.
On passe à la suite avec toujours Loïc Sécheresse et deux albums. Donc là, on revient, on arrive au Japon. Donc le premier qui s'appelle, c'est le premier ou le deuxième Raiju?
C'est le premier, c'est ça.
Raiju, et le deuxième Raiden. Et donc, il parle de mythologie japonaise.
Oui. Alors, la rencontre avec le monde de l'estampe, c'est quelque chose qui démarre quand je suis adolescent. Je tombe sur un très beau catalogue qui parle du japonisme, c'est-à-dire de la compréhension par les artistes du 19e siècle qui voient arriver les estampes comme d'abord simple papier d'emballage dans le commerce entre le Japon et la France. Ils découvrent ça, Van Gogh tombe à la renverse, ça transforme son travail. Moi, je découvre ce catalogue formidable. Je vois tous les impressionnistes, les expressionnistes qui s'emparent du travail japonais. Je découvre Hokusai, Kuniyoshi. Et alors là, c'est extraordinaire. Ce sont des héros formidables. C'est turbulent. C'est une mythologie, un bestiaire. Je tombe à la renverse. Et puis après, les choses s'affinent. Je découvre des choses très subtiles dans la mise en scène de cet univers, un travail sur le cadre, sur la couleur. C'est extraordinaire. On est entre l'affiche, la bande dessinée et l'art pur. Et je ne savais pas que cette synthèse pouvait se faire. Ça désacralise un peu ma vision de l'art, en fait, parce que c'est un art très populaire aussi. Et donc je cultive ce goût pour l'estampe. Et quand je vois le travail de Loïc, je le vois travailler avec son crayon. Il faut le voir, il est installé. Il réfléchit à ce qu'il va faire. Il prend son crayon debout comme un maître zen tient son pinceau et il commence à travailler comme ça. Je n'avais jamais vu quelqu'un dessiner comme ça et je comprends et je l'amène, je lui offre un bouquin sur les estampes. Et alors pour lui, pareil, je pense que c'est un choc. Et on échange des tas de choses et on en parle et on va voir les expos. On passe beaucoup de temps ensemble au musée Guimet, au musée Chernuski, etc. Toujours le rapport à l'histoire de l'art, vous voyez, qui vient nourrir. Et on a très envie de faire quelque chose. Et Loïc fait un jeu de mots. On est encore un peu sur Tozoï Devila et il me fait un chamouraï. Donc un samouraï à tête de chat. Je trouve le personnage absolument fascinant. Je me renseigne, je trouve des tas de bouquins à la bibliothèque, j'en achète. Et je tombe sur ce personnage de Raijin ou Raiju, quelquefois quand il est prononcé, qui est le dieu de la foudre. Et on le voit même dans les Pokémon. Hein. C'est Raichu, je crois, c'est une des formes de Pokémon. Je l'ai compris après, plus tard. Mais le rapport est là, il s'agit du dieu de la foudre. Et je lis que très souvent, les femmes en couche colmatent leur petit nombril parce qu'elles ont peur que Raiju, si elles accouchent un jour d'orage, s'empare de l'âme de leurs enfants. Et ça me fait rêver, cette histoire. Et je me dis, mais voilà mon Raiju, il va naître comme ça. Et il y a cette scène d'accouchement au début, assez terrible. Et je commence à imaginer toute une histoire pour Loïc et pour moi, et on a ce plaisir du rapport à l'estampe. Loïc, il comprend tout de suite le cadrage japonais, il comprend le langage de la couleur. Bon, il a une approche très audacieuse que j'aime beaucoup. Et puis, on développe aussi un autre univers qui s'appelle la chasse au tigre, très amusant en Inde. Pareil, je me passionnais aussi pour l'art indien. Et donc, on va présenter tout ça. On ne sait pas trop où d'ailleurs. On va se balader au festival de Saint-Malo, à Quai des Bulles. Et puis, à ma grande surprise, Gallimard vient nous voir. Ils ont vu Tozoï des Vulas, qui n'a rien à voir avec leur ligne éditoriale, mais ça les amuse. Ils voient une collaboration, une amitié, un trait. Et ils nous disent si jamais vous voulez présenter quelque chose un jour, venez nous voir. Et c'est Johan Sfar, donc, qui est le responsable de la collection Bayou pour Gallimard. On lui envoie deux projets, la chasse au tigre et Raiju, et il retient Raiju, qu'il aime beaucoup, qu'il trouve très excitant, et l'aventure commence. Et dans Raiju, on met beaucoup de choses qui nous plaisent à tous les deux, peut-être aussi quelques références un peu bébête au dessin animé ou aux jeux vidéo, notamment dans le tome 2 Raiden, où on voit apparaître des personnages de... Oh, décidément, ma mémoire, c'est terrible. Ce jeu de combat, Street Fighter, voilà, c'est ça. Et puis Totoro. Totoro, formidable.
Je voudrais juste, je fais une remarque qui, tout à l'heure, ça m'y a fait penser entre les estampes, l'art japonais. L'art japonais est lié au manga d'une façon charnelle, puisque Okusai est même nommé le nom de la bande dessinée au Japon, puisque le Okusai manga est la première bande dessinée en tant que telle au Japon, quoi. Donc, oui. Donc voilà, c'est vraiment les deux univers qui sont...
Oui, la manga, c'est un recueil de carnets, en fait. Okusai, on l'appelle aussi le fou de peinture. Okusai, c'est le 19e siècle au Japon. Et c'est une bête de dessin. Et donc, il s'impose déjà tous les matins en se levant de dessiner ce qu'on appelle en Occident un lion, mais qui est une sorte d'animal chien-lion mythologique. Il en fait un. Il y a donc une collection absolument incroyable. C'est un personnage qui a une vie trépidante. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui change de nom à chaque fois qu'il aborde une nouvelle période de son travail. Et c'est quelqu'un qui va tenir une sorte de répertoire des formes. Et aussi, la manga est plus qu'une bande dessinée, est un cours de dessin. Il a la prétention, et il a les moyens de cette prétention, d'enseigner à d'éventuels disciples ou personnes intéressées par le dessin comment on dessine la vie au Japon. Et il s'intéresse tant à l'architecture qu'aux figures mythologiques, qu'aux poses des personnages, et il s'empare des simples travailleurs des champs, des ouvriers, des commerçants, et on les voit dans des tas de scènes très amusantes, dans des poses très vivantes. Si jamais vous avez... il y a beaucoup de facsimilés depuis 5-6 ans, on a commencé à republier la manga, c'est un bonheur. Ça vaut pas trop trop cher, on trouve même des petites synthèses. Au moment de l'exposition au Kusai à Paris, il y avait des petites synthèses qui présentaient déjà un beau travail de la manga, et au moins dans toute sa diversité. Il peint des oiseaux, il peint vraiment beaucoup beaucoup de choses, des paysages, et donc c'est un répertoire de formes absolument extraordinaire, et il explore absolument tout, jusque même l'art érotique du Shunga.
On va passer... Il y a d'autres trucs entre, mais on n'aura peut-être pas le temps. J'avais noté playlist.
Oui, oui.
Et les autres gens aussi. Les autres gens, j'ai pas pu le lire, mais playlist, lu, c'est plutôt destiné à un public.
Oui,
plus
alors
jeune.
Playlist, c'est autre chose. C'est très intéressant comme exercice aussi. C'est vraiment un exercice de commande de Capi Bayard. Je travaillais avec une dessinatrice que je n'ai pas choisie, mais qui est très talentueuse, qui signe Mambou, qui fait un travail justement avec une approche, on va dire, manga à l'occidental. Alors là, il s'agit de reprendre des épisodes qui paraissaient depuis très longtemps dans Okapi. Ça s'appelait Tendre banlieue. C'était dessiné par Tito. Formidable. Moi, j'ai adoré Okapi. J'ai encore chez moi le premier numéro d'Okapi. Mais Tito, voilà, je lui rends hommage. Il fait un très beau travail, mais je pense que Okapi voit qu'il se développe d'autres types de dessins. Donc, ils me connaissent et ils me commandent un univers chargé de prendre la suite de Tendre banlieue de Tito.
Oui, et puis plus moderne aussi, parce que c'est Tito, ça. Vieillissant, enfin, ouais. Sa vision de la banlieue a peut-être.
C'est ça. À l'époque, mon fils aîné monte un groupe de musique et je me suis dit, ben voilà, je vais prendre ça comme fil directeur. Et ce sont de jeunes adolescents qui montent un groupe de musique et ce sont leurs espoirs de succès et leurs histoires d'amitié et d'amour. Voilà. Voilà pour Playlist. Et les autres gens, ça a été aussi une expérience, pour en dire deux mots, parce que pour moi, ça a été très, très riche. Je remercie Thomas Cadenne qui s'est lancé dans cette extraordinaire aventure d'édition, de publication, de scénario. Moi, ça, grâce à lui, je suis rencontré en contact avec énormément de dessinateurs. Je me suis formé l'œil aussi et au dessin à travers les autres gens qui proposaient un panel de dessinateurs extraordinaires. J'ai pu faire deux très beaux exercices sur ce qu'ils appelaient des semaines spéciales, c'est-à-dire c'était des sortes d'épisodes qui sortaient
de la narration principale,
des épisodes spéciaux. Et donc j'en ai fait un à New York, qui se passait à New York avec Benjamin Bachelier, un dessinateur nantais avec qui je travaille beaucoup. On voit apparaître justement une collaboration. Et aussi à nouveau avec Loïc Sécheresse, c'était un grand bonheur. Et ça m'a permis de rencontrer tout le formidable foyer de dessinateurs nantais et de découvrir encore plein d'auteurs hyper talentueux, parisiens, lyonnais, ailleurs. Et je suis très reconnaissant à Thomas pour cette collaboration. J'ai beaucoup appris aussi.
Alors là, on passe à l'adaptation en bande dessinée de Gatsby le Magnifique. Alors, oui. Si je peux faire un aveu, je connaissais pas avant de préparer cette intervention, et je me dis putain, le mec, il a osé adapter Gatsby le Magnifique. Il se prend pour qui ? Je me disais ça à moi-même.
Oui.
Il se prend pour qui ? Mais de toute façon, ça doit être pas bien. Il y a eu plein d'adaptations déjà. Et j'avoue que j'ai été un petit peu bluffé à la fois par l'adaptation et le dessin qui est magnifique. Je fais des compliments au dessinateur qui n'est pas là aussi, mais voilà. Et donc je me suis dit, mais non, t'aurais pas dû penser ça. C'est voilà, le mec il assure quand même un petit peu là. Et pour expliquer, donc ça se passe à Shanghai en fait.
Oui.
Donc c'est une adaptation et plus moderne et qui se passe à Shanghai. Et je pense que c'est un point de départ qui permet après de tout. Enfin, je pense que ce point de départ a dû tout débloquer chez vous. Enfin, moi, je me vois ça comme ça.
Oui.
Le fait de passer là, ça a dû permettre d'ouvrir les portes et de se dire. Bon, déjà, on parlait d'inconscience tout à l'heure. Je pense qu'il faut une certaine dose d'inconscience pour se lancer là-dedans.
Oui.
Mais chapeau, quoi. Vraiment.
Merci beaucoup. Alors, comment j'aborde Gatsby ? Gatsby, c'est un roman marquant pour moi parce que. Je découvre ça vers 15 ans, c'est peut-être un peu tôt d'ailleurs, et je quitte la littérature d'aventure, en fait, je quitte Conrad, je quitte Stevenson, et boum, je tombe un peu par hasard sur ce roman, et c'est le premier roman qui me fait rentrer dans des problématiques d'adulte, et c'est un choc, il est question d'amour, c'est une histoire d'amour qui finit très mal. C'est une belle traduction de Gatsby déjà. Pardon pour le traducteur, je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est très très bien traduit avec un grand sens de la poésie. Plus tard, j'aborderai le roman dans la langue originale. C'est très intéressant aussi. Et ça, on prend conscience de l'enjeu de la traduction parce qu'on lit beaucoup de choses de romans étrangers. Et il faut rendre hommage aux traducteurs qui arrivent ou non, mais très souvent qui arrivent à nous restituer la langue de l'auteur. Et donc, voilà ce qui se passe. Et j'apprends en lisant un article dans la presse que le roman de Fitzgerald vient de passer dans le domaine public. Auparavant, ça aurait été difficile de s'en emparer. Il aurait fallu céder beaucoup d'argent aux ayants droit. Et jamais Gallimard ne se serait lancé dans l'aventure. Moi, ce roman, je le porte en moi depuis des années. Et quand j'apprends qu'il est possible de s'en emparer, je sais que je peux faire une proposition intéressante parce que je viens de rencontrer Benjamin Bachelier aussi, ce dessinateur. Et on s'entend très très bien tous les deux, on se comprend, on a beaucoup de références communes. C'est quelqu'un qui lit et qui écoute beaucoup. Benjamin, il travaille en écoutant des audiolivres. Donc c'est quelqu'un qui est assez cultivé. et qui a l'intérêt pour la littérature. Il connaît ce roman et on cherche un angle. Je cherche un angle. Au même moment, j'ai un demi-frère qui est artiste plasticien, Nicolas Floch, et qui est invité à la grande exposition universelle de Shanghai. Et il me ramène des photos de la ville en pleine destruction-reconstruction. Et là, je me dis, mais il y a un parallèle formidable à faire entre le New York des années 20, qui aborde le capitalisme, qui détruit ses vieux quartiers pour bâtir des gratte-ciel, et Shanghai, qui est en pleine révolution et qui connaît finalement la même approche. On vient de voir le très beau In the Mood for Love de Wong Kar-wai. On se dit, mais il y a un côté hyper glamour chez ces comédiens, cet univers. Je relis très vite Gatsby pour reprendre la température du roman. C'est à nouveau un plaisir. Et puis, je m'aperçois que le film formidable avec Robert Redford et la détestable Mia Farrow dans ce film. Hein.
Même en général.
non, elle est... enfin bon, bref. Et je me dis, mais à chaque fois on nous parle du jazz, j'apprends que Baz Luhrmann va faire aussi une adaptation cinématographique. Moi, je ne vois pas une seule fois le mot jazz écrit dans le roman, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est... Alors, bien sûr, Fitzgerald s'est passionné pour le jazz aussi, mais il a fait des récits qui parlent du jazz. Gatsby Magnifique, c'est d'abord une histoire d'amour. C'est les années folles, mais qu'est-ce qu'on nous décrit des grandes fêtes de Gatsby ? Des embouteillages de bagnoles absolument incroyables dans son parc. Il n'est pas question de musique. Alors, on nous parle de la fête, mais on est vraiment dans l'histoire d'amour et chez les personnages. C'est une très belle histoire d'amour, Gatsby, et une histoire d'amour gonflée. Et moi, c'est ça que je veux voir ressurgir. Et donc, je gomme complètement la dimension année folle, jazz, etc. Et j'aborde les personnages. Et c'est ça qui me plaît, c'est de travailler là-dessus. J'aime l'approche très picturale qu'en fait Benjamin. Tout est fait à l'ordinateur, mais on croirait qu'il a utilisé du pastel gras tout le temps. Alors, c'est absolument bluffant. Et je m'empare des personnages et je creuse cette veine de cet univers chinois glamour. Et je pense qu'à nouveau, on voit ressurgir cette très belle histoire d'amour qui disparaît systématiquement dans les adaptations cinématographiques au profit d'une sorte de grand n'importe quoi festif où c'est bourré de citations sur les grands du jazz des années 20.
Ouais, au-delà de ça, on a l'histoire d'amour et l'histoire de Gatsby aussi, une espèce de truc sur le capitalisme.
Oui,
et
tout à fait.
On a vraiment les deux. Moi, les deux, j'avais vu... Je me souvenais à peine du roman, j'avoue, je l'avais lu ado. J'ai vu le film de Baz Luhrmann, je ne sais pas, il y a un an ou deux, donc j'avais plus ça en tête. Et la comparaison est plutôt en votre faveur. Quoi.
Merci beaucoup. Ouais. J'aime bien Baz Luhrmann par ailleurs, hein, mais je pense que... il est face à un problème, c'est la maîtrise du temps. C'est une histoire très très libre, Gatsby. Moi, je pense, ne le prenez pas mal, Monsieur Fitzgerald. Je pense que Gatsby est un formidable roman raté. C'est-à-dire que le récit est très très libre. Il ne suit pas du tout les constructions schématiques hollywoodiennes. Alors, d'abord, c'est de la littérature et pas du cinéma, mais il y a un rapport. Hein. Fitzgerald a travaillé pour Hollywood. Il déteste l'écriture cinématographique. Et donc, il se permet des digressions. Il y a des chapitres qui ne font pas absolument pas avancer l'intrigue ni le mystère autour du personnage. C'est formidablement enthousiasmant de liberté. Je ne dis pas gratuitement que c'est un magnifique roman raté. Il le dit lui-même dans la correspondance qu'il a avec son éditeur. Il hésite, il reprend, il travaille, il est absolument persuadé qu'il est en train de se planter. Voilà. Donc j'en parle pour l'avoir lu. Et en fait, cette histoire, il met ses tripes sur la table et dans son écriture, elle est extrêmement attachante parce qu'elle est pleine d'imperfections et c'est toutes ces aspérités et les non-dits et le sous-texte. Il parle de l'homosexualité, j'en suis persuadé, sur le personnage de Nick.
C'est une question qui m'a...
Ça a été beaucoup débattu. Il y a des thèses entières aux États-Unis sur le personnage de Nick.
En lisant le passage, je me suis dit, mais ça, je m'en souvenais pas. Est-ce que... Alors, c'est... probablement sous-entendu, mais vous l'avez...
Moi, j'en ai fait un personnage et une problématique. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai poussé une idée qui est présente dans le roman. Je pense qu'on est en 1925, il ne peut pas l'exposer clairement. Je propose de l'aider à la développer au moment où je m'empare de son récit.
Ça m'a rappelé John Dos Passos aussi.
Oui.
Et je me suis dit que Peut-être pas une adaptation en BD, mais c'est un auteur qui n'a quasiment jamais été adapté, même au cinéma.
C'est très difficile.
Mais ça, c'est un défi qui serait intéressant. Enfin, oui. ça m'a
absolument. Oui, les grands auteurs, les grands nouvellistes américains. Alors, c'est difficile l'adaptation en bande dessinée, surtout quand on est devant des objets littéraires très, très, très forts. Hein, parce qu'il ne s'agit pas juste de s'emparer des dialogues et de faire un copier-coller. Il faut arriver à retransposer les atmosphères, le sous-texte. Il faut faire des choix visuels très forts.
Puis, voilà, on n'est pas tout seul. Quand on est que scénariste, il faut travailler avec un dessinateur.
Bien sûr, le scénario, c'est tout et c'est rien. C'est la base, c'est le début, mais on ne publie pas un scénario. Donc, ce qui est intéressant, c'est la mise en dessin et la collaboration. Oui, quand elle se passe très bien, comme c'est le cas avec Benjamin, c'est une grande chance. Ouais.
On en arrive à votre boulot le plus récent, les deux derniers albums, je pense, qui ont été publiés.
C'est ça.
C'est une autre adaptation. Et là aussi, c'est pas facile, a priori, puisque c'est l'adaptation des Royaumes du Nord de Philip Pullman. Pour l'instant, le premier tome est en... Il y a trois livres, c'est ça ? Trois romans, et le premier tome est
En trois volumes de bande dessinée.
D'accord, voilà.
En fait, trois romans pour la trilogie et trois albums. J'espère qu'on va tenir...
Donc neuf albums pour adapter la trilogie.
Voire peut-être dix, que le quatrième est un pavé énorme. D'accord. Et on mettra peut-être quatre albums pour l'adapter. Rien n'est sûr encore, mais on est sûr au moins d'arriver jusqu'à l'adaptation du premier volume de la trilogie en trois albums. Parce que Clément travaille, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. J'ai une pensée très amicale pour lui, mais il bosse sur le tome 3. Voilà, c'est à cause de moi s'il n'est pas là.
Donc là, c'est une autre problématique. C'est un bouquin contemporain d'un auteur vivant qu'il a fallu convaincre.
Oui.
Déjà, d'où est venue l'idée ? Je pense que c'est Clément qui est à l'origine.
Comment ça se passe ? Clément, déjà un auteur grand succès, il vient de faire Aya. C'est quelqu'un que j'ai le plaisir de rencontrer sur les dédicaces, sur les stands de Gallimard, dans les salons. Et on s'entend très bien. Lui, il a envie de s'attaquer. Il aime les grandes histoires, très longues. Et donc, il est en train de lire Les Royaumes du Nord. Et lui, il n'est pas scénariste. Il ne se sent pas d'attaquer un monument pareil. Moi, je viens de faire Gatsby. Gallimard a confiance. Nous met en contact. Le courant passe très, très bien. Et... je découvre Les Royaumes du Nord, que je n'avais pas lu avant, mais je les avais offerts à mes enfants. Conseil de libraire, excellent conseil, mais moi, je ne les avais pas lus. Et donc, je découvre cet auteur. Alors là, je tombe de ma chaise, quoi. C'est magistral, c'est encore une fois de la très belle littérature. C'est un propos archi-gonflé, quand même, qui s'en parle de la culture chrétienne pour en faire une sorte de mythologie philosophique. C'est aussi un magnifique roman d'aventure. C'est plein d'inventions, de merveilleux, de fantastiques. Je dévore les trois tomes. J'apprends que, avec Clément, on apprend que M. Pullman a juré ses grands dieux que plus jamais il y aura d'adaptation des Royaumes du Nord.
À cause du film.
Il est malheureux du résultat. Le meilleur succès qu'il ait eu en adaptation, c'est un feuilleton radiophonique à la BBC, qui est le feuilleton de référence. C'est ce qui, jusqu'ici, considère être le mieux réussi. Et puis, Gallimard me dit, écris-lui. Alors, je lui écris une longue lettre. Je lui parle de peinture, de poésie. Je lui dis, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est ambitieux. On va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'albums pour adapter votre univers, parce que je veux qu'on s'attache aux personnages, je veux qu'on prenne le temps. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères, et je ne veux pas qu'on sabre le moins possible. Clément envoie quelques dessins absolument somptueux, et on n'y croit pas trop. On tente le coup, et il nous répond un petit mot absolument adorable, qu'il a confiance, qu'il a changé d'avis, et qu'il veut bien qu'on s'y attaque. Alors, c'est là que je commence à avoir peur, du coup. Parce que travailler pour un auteur vivant et quelqu'un qui, dans le monde anglo-saxon, a à peu près le même aura que J.K. Rowling, on commence à flipper parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts. On espère qu'on a tout bien compris. Et puis, on commence à rentrer dans le détail et on s'aperçoit que ça va être beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et alors, il faut oublier sa peur et puis il faut y croire. Et puis, on attaque et puis on prend le bouquin, on prend des notes... On rassemble tout ce qu'on connaît de son métier et puis on parle beaucoup avec Clément, on échange énormément de la documentation, des photos, des films, des références. Ça se passe très bien, on s'entend très bien tous les deux Et on discute beaucoup de tout ça. Et petit à petit, les images commencent à... Le ton général, les bonnes coupes à faire dans le livre, parce que malheureusement, il faut en faire. C'est que j'ai que 80 pages pour m'exprimer.
Ça reste hyper dense.
Oui.
C'est la qualité, le défaut peut-être d'une telle adaptation, c'est qu'on est obligé d'en mettre. Et il y en a, quoi. Je veux dire, c'est pas une BD qu'on lit comme un 46 pages en une demi-heure. Et, non,
c'est exact.
Ça a un côté vraiment romanesque, j'ai du mal à... dans lequel on est obligé de plonger. Et de, voilà, c'est comme un gros pavé.
C'est de la bande dessinée, mais ça reste encore un petit peu un objet littéraire. Hein. Et moi, j'en suis fier parce que d'abord, j'ai ce goût et le respect de la littérature. Et je voulais donner cette dimension un petit peu encore.
Mais ce n'est pas dense parce qu'il y a beaucoup de textes. Ce que je veux dire, c'est que c'est dense parce qu'il y a beaucoup d'action. Il y a un travail sur justement ce qui fait le sel de la bande dessinée, c'est-à-dire le texte et en même temps l'image. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps.
Mais pour moi, la bande dessinée, c'est de la musique. J'en ai pas parlé, mais j'aime énormément la musique aussi. Comme beaucoup de gens, hein, c'est pas original en tant que tel, mais j'en ai une approche très rythmique de la bande dessinée. C'est terrible, ma mémoire me fait défaut aujourd'hui. Il y a ce grand scénariste américain qui s'est réemparé Moore, c'est ça ?
De quoi ?
Des super-héros.
Watchmen,
etc. Voilà, c'est ça.
Alors, c'est un anglais, mais ouais, c'est Alan Moore.
Voilà, Alan Moore. Excusez-moi, je suis désolé. Non, non. Et je lis un article où il parle de sa technique. Et ça me passionne parce que il m'explique des choses. Il formule des choses que je percevais intuitivement. C'est-à-dire qu'une bande dessinée, c'est un livre avec une épaisseur, des pages à tourner, à une circulation du regard. Et donc, il faut jouer avec la dimension physique du livre. Rappelez-vous, les livres de poche, il y a un côté... Alors moi, j'arrive pas à la tablette. Pourquoi ? Mais parce que j'ai le plaisir de tenir le livre, de le casser, de lire. Et je sais que physiquement, je me rapproche de la fin. Donc je pressens déjà la construction du livre. Je sais que ça va monter, je veux savoir. Et pour moi, la bande dessinée, c'est pareil. Mais en plus, il y a une appréhension visuelle à l'intérieur. C'est-à-dire que le fait de tourner une page, pour moi, c'est déjà un acte de narration. Sur Raiju, on ne peut pas le voir, mais je jouais avec cette dimension-là, avec Loïc. Il y a un moment, il y a une jeune femme qui est embêtée dans une auberge. Le fait de tourner la page nous emmène dans une pleine page pour la scène de combat, etc. Et on franchit la page comme on aurait traversé les shoji, vous savez, ces espaces qui cloisonnent les pièces dans les maisons japonaises. Voilà. Et j'essaie de garder cette approche aussi très physique, très sensuelle du livre, également dans la rythmique et de la compréhension du rythme. J'en ai une approche un peu feuilletoniste et novelliste au sens des épisodes qui étaient dans les magazines où il fallait une bonne attaque sur la première case, une très bonne attaque sur la dernière et pour relancer toujours la lecture. Et c'est une obsession chez moi, toujours ce rythme.
C'est une grande leçon des anciens scénaristes qui publient en revue qu'il fallait qu'il y ait une chute, même dans les trucs d'aventure, à chaque page parce qu'on ne savait pas où on allait couper dans la revue, où l'épisode de cette semaine allait s'arrêter. Donc, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne encore, même quand on n'est pas dans le cadre d'une revue.
Tout à fait.
Et la BD, l'action de la BD se déroule que dans les gouttières entre les cases, quoi.
On absolument.
Donc il faut, évidemment, le rythme, il faut donner la bonne image au
c'est
bon
capital.
Moment.
C'est comme écrire une partition, pour moi, un scénario, parce que la partition sera interprétée par un grand artiste. Et moi, j'essaie de donner la plus belle partition possible à Clément parce que c'est un grand artiste et je sais qu'il va faire quelque chose de beau. Mais c'est un outil. Hein. Je suis comme un artisan. Le scénario n'est qu'un outil, ce n'est pas une forme en soi.
Au niveau des thématiques, j'ai ressenti et j'ai lu des articles aussi sur Pullman et une espèce d'anti-catholicisme qui c'est l'anti-Narnia en fait. Lui, il voulait faire l'anti-Narnia.
Oui.
Comment vous avez abordé ce truc-là ? Est-ce que c'était important à mettre en avant ou est-ce que vous préfériez rester sur le côté aventure et laisser la thématique se vivre d'elle-même quoi.
Non, c'est une donnée de l'album. Elle n'est pas du tout évitée. Elle n'est pas prise dans toute sa complexité parce que Pullman peut se permettre pendant 20 pages de nous expliquer les luttes de pouvoir à l'intérieur de l'église, de l'univers de Lyra. je pense que je perds le lecteur à ce moment-là. Donc moi, je vais essayer de résumer les tensions et les enjeux et les combats souterrains en quelques cases. Je ne peux pas faire davantage. Monsieur Pullman le sait, il a un regard très bienveillant sur cet aspect-là de découpe et de l'adaptation. Mais non, ça fait partie de cet univers-là. C'est même très, très intéressant. Et ce n'est pas un anticatholicisme chez Pullman, c'est plutôt un anticléricalisme. C'est une méfiance de l'Église en tant qu'instrument de pouvoir. Après, Dieu, je pense qu'il connaît bien. Il a une grande culture chrétienne que je partage dans mes études d'histoire de l'art. D'abord, je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai pratiqué un moment, je suis beaucoup plus dubitatif maintenant. Mais ça, c'est mon parcours personnel. Je ne porte pas de jugement, mais j'aime cette culture. Je m'y suis beaucoup intéressé. L'histoire de l'art, on s'intéresse à la mythologie issue du monde gréco-romain, mais j'ai fait énormément d'iconographie parce qu'on passait beaucoup de temps dans les églises, etc. Ça m'a passionné. Je connais bien ses références. C'est quelqu'un qui connaît très bien la religion chrétienne, etc. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui se sont emparés de tout l'univers fantastique et de la problématique qu'il peut y avoir autour de la culture chrétienne. Pullman le fait très bien. Il le fait avec un regard critique. Je pense qu'il peut balayer d'un revers de main toutes les critiques venues de l'Église, parce qu'il suffit de voir le parcours de l'Église qui accomplit des choses absolument magnifiques, mais qui est aussi responsable de désastres absolument colossaux en termes de civilisation. c'est tout. Ça fait partie de l'histoire de cette grande institution, de cette grande épopée spirituelle. Pullman la traite comme un auteur de roman. Ça s'agit d'abord de la fiction. Il ne faudrait quand même pas perdre ça de vue. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas traiter des thèmes de fiction, pourquoi Ulysse ne peut pas s'emporter contre les dieux et pourquoi Lyra ne pourrait pas critiquer l'Église de son univers. C'est exactement pour moi la même problématique.
On va être obligé d'arrêter parce que le temps nous presse. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Non ?
On ne sait jamais comment on doit le prendre. Soit on a barbé les gens, soit on a répondu à tout, en fait.
Non, personne. Écoutez, on va être obligé d'arrêter là, parce qu'il faut que j'aille à une autre table ronde. Je suis désolé.
Je vous en prie. Moi, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé.
On va remercier Stéphane. Merci beaucoup pour cette heure passée.
Merci.
Merci à vous.